Vous écoutez bien Radio France Internationale, midi et demi en temps universel. Il est 13h30 ici à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sieur.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. Il y a 2 ans commençait une affaire qui allait profondément secouer le Cameroun. Le 17 janvier 2023, l'animateur radio Martinez Zogo disparaissait de la circulation à Yaoundé. Son corps serait retrouvé 5 jours plus tard. Aujourd'hui, ses collègues d'Amplitude FM lui rendent hommage sur leur antenne. Nous verrons aussi que le procès de 17 accusés commencé il y a 10 mois reste enlisé dans des questions de procédure. La visite d'État en France du président angolais João Lourenço. On parlait business ce matin au siège du MEDEF, le patronat français. Des escrocs se faisant passer pour l'acteur américain Brad Pitt soutirent 800 000 euros à une Française. Des brouteurs qui seraient au Nigeria, selon un site d'investigation spécialisé dans les arnaques 2.0. Un phénomène qui n'est pas nouveau, mais qui se réinvente sans cesse. Kemal Afanyon, responsable Afrique de l'Ouest à l'ONG Internet sans frontières, est notre invité.
C'est l'émission Embouteillage. Martinez Zogo, c'est mon nom. Je suis là ce matin une fois de plus pour vous parler. C'est l'émission Embouteillage qui commence à tout de suite.
Une voix, un style qui se sont éteints il y a 2 ans, jour pour jour. Le 17 janvier 2023, on apprenait la disparition à Yaoundé du célèbre animateur radio Martinez Zogo. Le matin, il avait animé Embouteillage, son émission sur l'antenne d'Amplitude FM. L'après-midi, il se volatilisait et 5 jours plus tard, son corps torturé était retrouvé dans une banlieue de la capitale camerounaise. Ses collègues de la radio consacrent depuis ce matin l'essentiel de leur programme à un hommage à leur ancien patron. Polycarpe Samba, vous êtes sur place à Amplitude FM. En ce triste jour anniversaire, quelle est l'ambiance ?
Oui, Nicolas, tout ici au siège de la radio Amplitude FM est fait pour rappeler la mémoire et le souvenir de Martinez Zogo. La radio a déployé des enceintes qui donnent sur le trottoir de sorte que les passants et les riverains peuvent écouter ce qui est produit à l'antenne depuis les premières heures de la matinée où ces programmes hommages ont débuté. À 10h pile, l'heure à laquelle le confrère s'installait pour animer son programme éponyme Embouteillage, c'est sa voix qui a gagné les ondes. La radio a recyclé une de ses introductions, provoquant une profonde émotion auprès de ses collègues ainsi que des auditeurs dont certains ont fait le déplacement de la radio pour venir communier cette journée avec le personnel présent. Alors qu'il est, ces programmes se poursuivent, agrémentés par des musiques toutes dédiées aux confrères disparus. Il nous a été révélé que depuis qu'il a été assassiné, une 50aine d'artistes ont produit des œuvres à son honneur. Ces musiques sont diffusées en boucle à la radio, ainsi que des cantiques religieux. La journée va se dérouler ainsi et les hommages vont se poursuivre bien au-delà jusqu'au 22 janvier, qui, lui, symbolise le jour où la dépouille de Martinez Zogo avait été découverte dans une proche banlieue de Yaoundé.
Polycarpe Essomba, en ligne de Yaoundé. Cette affaire qui a profondément secoué le Cameroun a débouché sur des arrestations et un procès fleuve. 17 accusés sont jugés par le tribunal militaire de Yaoundé. Parmi eux, l'ancien patron de la Direction générale de la recherche extérieure, Léopold Maxime Eko-Eko, son ex-directeur des opérations, un élu municipal et un homme d'affaires, Jean-Pierre Amougou-Bellinga. Amélie Tulé, il a commencé ce procès au mois de mars, il y a 10 mois, mais il paraît enlisé dans des questions de procédure.
Oui, une quinzaine d'audiences déjà et toujours pas de débat sur le fond. À ce jour, aucun accusé, aucun témoin n'a été entendu, que ce soit sur la surveillance de Martinez Zogo, les préparatifs de son enlèvement en pleine ville ou les sévices qui lui ont été infligés. Parmi les obstacles sur lesquels le procès a achoppé ces derniers mois, l'accès au dossier. Rappel, le tribunal militaire a refusé de laisser toutes les parties en faire la copie. Le sujet est monté à la cour d'appel qui a donné raison au tribunal. Sur ce point, certains avocats sont partis en cassation à la Cour suprême. Mais pour cette étape-là, pas d'impact sur le calendrier du procès.
Alors, il y a tout de même d'autres questions, Amélie, soulevées par les avocats, sur lesquelles la cour d'appel du centre a été saisie.
Oui, d'autres vices de forme et de procédure, selon les avocats, notamment concernant une ordonnance de renvoi. Et là, il faut attendre que la cour d'appel se prononce. Plusieurs avocats contactés ont le sentiment d'être face à un procédé dilatoire. C'est comme si le tribunal nous donnait la matière pour contester la procédure et faire durer les choses, dit l'un d'eux. Comme s'il y avait la volonté de multiplier les obstacles pour éviter d'aller au fond, dit un autre. Pendant ce temps, pour plusieurs accusés, on approche des 2 années années de détention sans jugement et pour les proches, 2 années d'un deuil impossible. Le corps de Martinez Zogo est toujours à la morgue et les questions sur l'identité et les motivations des commanditaires toujours sans réponse.
Au deuxième jour de sa visite d'État en France, le président João Lourenço a ouvert ce matin un forum d'affaires France-Angola. C'est au siège du MEDEF, le patronat français. L'occasion pour le chef d'État de rappeler les priorités de son pays, deuxième économie d'Afrique australe, Claire Fage, et de concrétiser plusieurs contrats.
Oui, ce forum d'affaires est un événement catalyseur de projets et d'investissements en Angola. C'est félicité le président Lourenço. Il s'agit de profiter de l'expérience technologique des entreprises françaises dans l'agriculture, l'industrie et les infrastructures pour développer les ressources naturelles et la situation géographique de l'Angola, devenue, a-t-il souligné, plus favorable aux investissements. L'Angola est déjà le pays d'Afrique subsaharienne qui reçoit le plus d'investissements français, mais ils sont majoritairement liés au pétrole. Pour les diversifier, les entreprises françaises attendent beaucoup du futur corridor ferroviaire de Lobito, encouragé par l'Union européenne et qui devrait drainer de nouvelles activités économiques. Des contrats ont d'ores et déjà été signés ce matin entre le français Suez et l'entreprise publique de gestion de l'eau de Luanda, la capitale angolaise, entre Météo France International et l'Institut angolais pour la météorologie, entre Airbus et Mintelecom pour la fourniture du satellite d'observation de la Terre, Anju 1, qui sera fabriqué en France. En tout, 420 millions d'euros de contrats. Les entreprises des deux pays ont également annoncé la création d'une chambre de commerce France-Angola.
Le Togo pourrait-il rejoindre l'alliance des États du Sahel formée par le Mali, le Burkina et le Niger? Eh bien, ce n'est pas impossible, selon le ministre togolais des Affaires étrangères. Robert Ducey l'a dit hier dans un entretien accordé à la chaîne de télévision Vox Africa.
Pour moi, ce n'est pas impossible, mais c'est la décision du président de la République, d'abord, et c'est la décision également du Parlement togolais. Nous avions des institutions togolaises, nous avions la présidente de la République, comme vous le saviez aujourd'hui, nous mutant vers la 5e République, nous avions le Parlement. Si le Parlement décide que le Togo puisse rejoindre le pays de l'AES, pourquoi le Togo ne le ferait pas? On le fera. Mais je vais vous surprendre, demandez aux populations togolaises. Les Togolaises et les Togolais lambda. Si le Togo veut rentrer dans l'AES, vous allez voir leur réponse. Je vous dirai qu'ils vous diront oui. Bon. Plus de 70% vous diront oui. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Cameroun, en Afrique du Sud, partout, les peuples africains veulent être eux-mêmes. Mais le problème, c'est que certains de nos partenaires veulent que nous soyons à leur service. Nous disons non. Nous disons aujourd'hui non à la domination.
Robert Ducey hier sur la chaîne Vox Africa. Un ressortissant espagnol enlevé dans le sud de l'Algérie. Le kidnapping a eu lieu mardi soir près de Tamanrasset. Selon les informations de RFI, des hommes armés l'ont emmené au Mali voisin. L'enlèvement n'a pas été revendiqué, mais les sources jointes par RFI accusent la branche sahélienne du groupe djihadiste État islamique. David Bachet.
Assekrem est une zone montagneuse et touristique que les chancelleries occidentales déconseillent à leurs ressortissants. Selon plusieurs cadres rebelles du FLA dans le nord du Mali et selon des sources communautaires locales, c'est là que l'enlèvement a eu lieu. Ni son identité précise, ni le motif de son séjour n'ont pu être suffisamment recoupés. Après l'enlèvement, les ravisseurs prennent la direction du Mali voisin. Leur véhicule traverse la frontière vers Tinzawaten, puis gagne la région de Ménaka. Pas de revendication. La frontière Algérie-Mali est dans la zone d'influence du JNIM liée à Al-Qaïda, mais les sources jointes par RFI pointent unanimement l'État islamique au Sahel. Ce que le repli dans la région malienne de Ménaka, contrôlée par le IS, semble confirmer. Cet enlèvement est un revers pour l'Algérie qui réussissait depuis plusieurs années à contenir la menace djihadiste sur son territoire. En 2013, la prise d'otage du site gazier d'In Amenas avait fait près de 40 morts. En 2014, un randonneur français avait été exécuté près de Tizi Ouzou par un groupe affilié à l'État islamique.
La Sierra Leone rappelle son ambassadeur à Conakry. Décision annoncée hier après que les autorités guinéennes ont saisi dans un véhicule diplomatique de l'ambassade 7 valises contenant de la cocaïne. Une enquête a été ouverte, Christina Okello.
Almami Bangoura, l'ambassadeur, et Alba Josia Cocker, le chef de la chancellerie, ont été rappelés à Freetown pour fournir des explications sur les circonstances ayant permis un tel incident. C'est une première. Certes, d'autres saisies de drogue ont déjà eu lieu dans cette région, comme le rappelle l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, mais jamais un tel niveau diplomatique. L'enquête menée avec les autorités guinéennes devra répondre à plusieurs questions. D'abord, l'itinéraire. On sait que le véhicule incriminé a commencé son trajet en Sierra Leone avec un laissez-passer pour la Guinée, avant d'être intercepté le 31 décembre. Ensuite, le rôle des personnes impliquées. Deux individus sont en cause, le chauffeur et un autre occupant dont l'identité reste inconnue. Enfin, les failles sécuritaires. Comment un véhicule diplomatique a-t-il pu transporter jusqu'à 13 kilos de drogue et 2 000 $ en espèces sans éveiller de soupçons? Une question à laquelle les enquêteurs s'efforceront de répondre. Sur le plan diplomatique, la Sierra Leone minimise les tensions avec la Guinée et prône la collaboration. Mais Freetown, visiblement embarrassé, promet des sanctions exemplaires, quel que soit le statut des responsables.
En République démocratique du Congo, se dirige-t-on vers un allègement de l'état de siège en vigueur depuis près de 4 ans dans 2 provinces de l'est du pays? Mercredi, lors d'un conseil des ministres extraordinaire, le chef de l'État a demandé à son gouvernement de lui présenter une feuille de route visant à mettre progressivement fin à ce régime d'exception. Alexandra Brongeon.
Le gouvernement a 15 jours pour remettre au chef de l'État une feuille de route en vue d'une levée progressive de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri. Cette mesure exceptionnelle avait été décrétée en avril 2021 par le président Tshisekedi pour rétablir la paix dans ces 2 provinces menacées par l'insécurité. Mais depuis, son efficacité est remise en cause, à commencer par la société civile et les députés des provinces en question. Cette mesure n'a pas apporté les résultats escomptés, faisait remarquer il y a peu Gratien Hirachan, l'élu de Bunia en Ituri. La levée de cette mesure, avait-il ajouté, permettrait de rétablir les autorités civiles et permettrait ainsi à l'armée de se concentrer sur les opérations militaires contre les rebelles du M23 et des ADF. Il y a 2 mois, la première ministre s'est rendue dans les 2 provinces pour dresser un bilan de ce dispositif. La mission a conclu que l'état de siège est encore considéré comme une nécessité, a fait savoir le porte-parole du gouvernement à l'issue de ce Conseil des ministres, tout en ajoutant que le besoin d'alléger davantage le dispositif s'était fait sentir au sein des populations concernées.
Il est 13h42 à Kinshasa.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, les États-Unis décident de sanctions contre le général soudanais Al Bourhan. Et puis les sports en République démocratique du Congo, la phase retour du championnat de football tarde à démarrer. Ça ne fait pas les affaires des clubs. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce vendredi, à Madagascar, le tribunal administratif a proclamé à la mi-journée les résultats définitifs des élections municipales à Antananarive. La candidate de la coalition présidentielle, Arlal Ramanansou, devient officiellement maire de la commune urbaine d'Antananarive. Cette proclamation intervient 2 jours après le rejet de la requête de son principal opposant, Toudj Ravalmanan. À son tour, le chef des forces armées soudanaises est sanctionné par le Trésor américain. Les États-Unis reprochent en fait au général Al Bourhan d'être un obstacle à la fin du conflit, Guillaume Nodin.
Il s'agit en quelque sorte de joindre les actes à la parole. Le 7 janvier dernier, quand le secrétaire d'État américain Anthony Blinken avait déterminé que les forces de soutien rapide, en guerre avec les forces armées soudanaises, s'étaient rendues coupables de génocide, il était bien spécifié que cela ne voulait pas dire que Washington soutenait un camp plutôt que l'autre. Ces sanctions contre le général Al Bourhan viennent confirmer cette position. Le Trésor américain décide donc de geler les avoirs du chef de l'armée soudanaise. Selon le communiqué, ces sanctions financières montrent l'engagement américain pour la fin de ce conflit. Le pays continuera d'utiliser les outils à sa disposition pour arrêter le flux des armes vers le Soudan et pour tenir ses dirigeants responsables de leur mépris flagrant pour la vie des civils, est-il ajouté. Néanmoins, les deux camps ne sont pas totalement mis sur un pied d'égalité à Washington. Ils sont tous les deux accusés de crimes de guerre, mais en plus, les forces de soutien rapide sont accusées de crimes contre l'humanité et de génocide. Et depuis le début du conflit, l'interlocuteur privilégié de la diplomatie américaine est bien le général Al Bourhan, représentant de l'État soudanais à l'étranger. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
Dans l'actualité des sports, du football en République démocratique du Congo, la phase retour du championnat tarde à démarrer. Alors qu'elle devait initialement se lancer le 11 janvier, un conflit entre la fédération et la Ligue nationale bloque la reprise et met les clubs dans l'embarras, Pascal Mangala.
Pour la jeunesse sportive Rue Bazano, victorieuse du FC Saint-Éloi-le-Popo le 12 décembre dernier, l'ambition a été d'enchaîner pour quitter la zone rouge. John Pueto, 20 ans, est un attaquant international congolais de ce club de Lubumbashi engagé en première division.
L'entraînement prépare les matchs. Si tu sais que j'ai match le 17 janvier, à partir du 10 décembre, je commence déjà à travailler parce que j'ai toujours connu son corps et ses faiblesses. Sans savoir la date, sans savoir si c'est les play-offs, si c'est la phase retour, ça démoralise un peu.
Une situation qui empêcherait à tout le football de RDC d'attirer le respect au niveau international, à en croire Yves Diba, ancien léopard de RDC.
Nous devons rendre productif, attrayant le foot congolais et cela passe par la régularité des matchs.
Arrivé lui, il y a 2 ans à la tête du staff technique du FC Tanganyika, promu cette saison en première division, le coach franco-tunisien Saber Ben Djabria espère que la situation va changer au plus vite.
On dort trop, il n'y a pas de compétition, il y a des petits pépins physiques, pépins mentaux, c'est très difficile de motiver les joueurs. On aime les challenges, le souhait c'est que le championnat vienne le plus rapidement possible.
Mazembe et Maniema Union sont pour l'instant les deux victimes de ce manque de championnat suite à leur élimination en campagne africaine, estime d'aucuns. Pascal Mwangala, Lubumbashi, RFI.
C'est un spectacle bien connu dans les capitales confrontées au délestage. Des élèves et des étudiants qui s'installent sous les lampadaires publics à la tombée de la nuit pour continuer à lire et à étudier. C'est aussi le sujet d'une expo photo qui a commencé à Brazzaville, les fantômes de la corniche. C'est à l'Institut français. Reportage Loïcia Martial.
La nuit est sur le point de tomber sur Brazzaville. Nous roulons sur la corniche qui borde le fleuve Congo. Au sortir du pont du 15 août, l'obscurité est omniprésente, faute d'électricité. Il faut rouler sur plusieurs kilomètres pour trouver quelques lampadaires qui éclairent la voie, notamment au croisement de la rue Kitenge à Makelekele. Quelques jeunes élèves révisent leurs leçons sous le cône de lumière.
C'est une bonne chose en fait, c'est bien éclairé et il y a de l'air pur, du coup tu as plus de concentration et T'as pas du mal à mémoriser tes leçons.
Il y a de l'air pur, donc c'est frais. Quand tu lis, il n'y a pas de dérangement, tu es là, au calme. Les leçons, tu as la facilité de retenir ce que tu lis.
Cependant, quelques étudiants évitent parfois la lecture sous les lampadaires.
Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi. Et lorsque tu arrives là-bas aussi, tu peux être distrait. Et la lumière des lampadaires, là aussi, sur le cahier, aussi, ça peut frapper aux yeux. Et ça peut créer des maux d'yeux, tout ça.
À Brazzaville, quand l'énergie domestique est coupée, et les lampadaires ne s'allument pas, les étudiants sont contraints de lire à la lumière de la bougie, voire du téléphone. Loïcia Martial, Brazzaville, RFI.
13h47 à Brazzaville. Anne Kantner, les grands titres de ce vendredi 17 janvier.
De dernières discussions au Caire pour une trêve à Gaza. Discussion technique, nous dit-on, avant la mise en place dimanche de l'accord entre Israël et le Hamas. Ce jour-là, un premier groupe d'otages doit être libéré après 15 mois de détention et ce, en échange de prisonniers palestiniens de Beyrouth où il est en visite. Emmanuel Macron appelle à accélérer la mise en œuvre du cessez-le-feu et il annonce à l'instant la tenue à Paris d'une conférence internationale pour la reconstruction du Liban. L'Union européenne, elle annonce approfondir son enquête sur X après ce qu'elle appelle des provocations de la part d'Elon Musk. Le milliardaire américain, très proche de Donald Trump, accusé de diffuser de fausses informations et de manipuler le débat public. Pour le chancelier allemand, Elon Musk représente même une menace pour la démocratie en Europe. Le Premier ministre français vise un accord au mois de mai sur la question des retraites. Déclaration après une réunion avec les partenaires sociaux, qui aura surtout été l'occasion de constater l'ampleur des désaccords, selon la dirigeante du syndicat CGT. Et puis le buteur norvégien Erling Haaland, prolongé à Manchester City. Et un joueur exceptionnel, contrat exceptionnel, près de 10 ans. La star vient de signer jusqu'en 2034 avec le club britannique. Et on revient à présent sur cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre cette semaine en France et aux États-Unis. Sur la chaîne de télévision TF1, une femme a témoigné avoir été ruinée par des escrocs qui se faisaient passer sur les réseaux sociaux pour l'acteur américain Brad Pitt. Ils lui ont soutiré plus de 800 000 euros sous prétexte de payer des soins pour un cancer. Ces cyber-escrocs seraient basés au Nigeria, si l'on en croit les investigations menées par un site internet spécialisé. Kema Lafagnon, responsable Afrique de l'Ouest à l'ONG Internet sans frontières, est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour Kemal Afanyon.
Bonjour.
Des mots doux, de faux selfies, de faux documents d'identité, des preuves fabriquées par l'intelligence artificielle et au final 800 000 euros soutirés. Est-ce que c'est pour vous l'escroquerie du siècle ou une affaire beaucoup plus classique de brouteur ?
Je n'irai pas jusqu'à parler de l'escroquerie du siècle, malgré donc l'importance de la somme qui a été soutirée à la victime. C'est une affaire classique parce qu'on voit ce genre de scénario davantage fleurir sur les réseaux sociaux où aujourd'hui les victimes de ce type d'arnaque au sentiment se comptent à l'appel et où on a déjà eu des cas précédents, des cas similaires où les sommes avoisinent les 800 000, voire plus de centaines d'euros. Oui.
Selon le journal français Le Parisien, la brigade financière a ouvert une enquête pour identifier les comptes bénéficiaires des fonds escroqués. Un site internet assure avoir localisé les malfaiteurs au Nigeria. Est-ce que cette piste vous paraît crédible ?
Cette piste nous paraît crédible parce que dans un premier temps, le Nigeria a été pendant très longtemps le bastion de ce genre d'arnaque, en fait, qui s'est très vite développé à travers toute l'Afrique de l'Ouest. Mais il faut dire aujourd'hui que le Nigeria n'est plus le seul pays où on compte aujourd'hui des brouteurs, comme on les appelle dans le contexte local, donc des gens capables de développer ce type de stratégie. Aujourd'hui, vous avez des personnes très bien outillées qui peuvent, avec un simple accès à Internet et avec beaucoup d'ingénierie sociale, parce que c'est surtout ça qui permet de travailler les victimes sur la durée, atteindre de tels objectifs. Donc aujourd'hui, vous avez des pays comme le Bénin et comme la Côte d'Ivoire également, où vous retrouvez des arnaqueurs redoutables aujourd'hui qui sont capables de soutirer de telles sommes à des victimes à travers des arnaques au sentiment ou aux fausses offres d'emploi, par exemple. Donc il y a toute une panoplie de stratégies qui se sont développées autour de ces arnaques à travers Internet.
Qui sont ces cyber-escrocs ? Est-ce que ce sont des geeks isolés ou est-ce qu'ils travaillent pour de véritable réseau.
Je pense plutôt à des réseaux bien soudés, bien huilés, qui fonctionnent des fois sur deux continents. Vous avez par exemple des personnes qui sont basées en Afrique qui se chargent de contacter les victimes. Et ça se fait grâce à Internet aujourd'hui parce qu'avec une simple connexion Internet, vous pouvez le faire. Et avec le développement de la téléphonie mobile aujourd'hui, ces arnaqueurs ont la possibilité de contacter très rapidement leurs victimes sur des réseaux sociaux tels que Facebook ou Instagram, pour ne citer que ces deux. Après, vous avez également des complices qui sont dans des pays comme la France ou les États-Unis, par exemple, et ces complices peuvent jouer divers rôles comme l'envoi de coupons Transcash, de coupons PCS par exemple.
Qu'est-ce
et
que
puis
c'est
comme on a pu le voir, c'est des coupons en fait qui ont une certaine valeur financière en fait, qui peuvent après être reconvertis en cash. Et ce qu'on voit de plus en plus se développer aussi, c'est maintenant le recours aux crypto-monnaies pour brouiller encore plus les pistes. Donc, des réseaux transnationaux aujourd'hui soudés, bien articulés, qui aujourd'hui travaillent de manière efficace pour dépouiller leurs victimes. Pour bien comprendre le stratagème, ça se passe vraiment sur la durée. Donc, c'est des gens qui collaborent sur du long terme. Et souvent, quand les victimes sont, par exemple, des personnes isolées, des personnes en détresse émotionnelle, des personnes endeuillées, par exemple, sur la durée, on peut parvenir, si c'est des personnes fortunées, malheureusement, on peut parvenir à leur soutirer de très grosses sommes.
Ces escrocs se livrent en fait à un véritable harcèlement. Alors, on entend souvent parler de victimes qui vivent en Occident ou dans les pays du Nord. Est-ce que ces escrocs s'attaquent aussi à des personnes qui vivent en Afrique ? Qu'en est-il du phénomène ?
Oui, par le passé, ces escrocs ciblaient essentiellement des victimes en Occident. Mais ce qu'on observe de plus en plus, c'est qu'ils ciblent à présent des victimes en Afrique. Ce qu'on voit, par exemple, c'est les arnaques au sentiment où on va, à travers la sextorsion, donc demander certaines sommes qui peuvent être considérable en Afrique, donc à ces victimes. Vous avez déjà plein de signalements en Afrique de personnes qui se sont fait piéger, malheureusement. Oui.
C'est-à-dire qu'on demande à des jeunes hommes ou à des jeunes femmes des vidéos à caractère sexuel en leur faisant croire qu'il y a des sentiments et qu'on en profite ensuite pour les faire chanter. C'est ça dont vous parlez.
C'était exactement à ça que je faisais allusion. Donc en général, la personne vous contacte, elle essaie déjà, dans un premier temps, d'établir un contact en jouant sur les sentiments, donc pour gagner la confiance. Et une fois que cette confiance est gagnée, en fait, ils essaient de pousser un peu plus le vice, demander des vidéos à caractère sexuel, ou on peut même demander à la victime de se dénuder, par exemple. Et une fois qu'ils ont ces images, ils reviennent ensuite à la charge. Et là, ils vous font chanter, vous demandent de verser des sommes folles, des sommes hallucinantes.
Est-ce que le phénomène est pris au sérieux par les autorités locales? Agissent-elles contre ces maîtres chanteurs et ces escrocs?
C'est un phénomène, en fait, où pendant longtemps, les autorités locales n'ont pas vraiment pris la mesure du problème. Donc, elles ont laissé le problème évoluer un peu sans vraiment s'y pencher. Ce qu'on voit depuis un certain temps dans des pays francophones, par exemple, c'est qu'il y a une certaine prise de conscience à travers notamment des vagues d'arrestations. On voit aussi beaucoup de répression. Mais le mal est plus profond que cela, parce que vous avez certaines personnes qui sont dans une certaine précarité, par exemple, certaines personnes qui sont sans emploi et qui vont s'adonner à cette pratique aujourd'hui parce qu'ils savent en fait qu'ils peuvent en tirer un grand bénéfice. Donc, face à l'ampleur des dégâts aujourd'hui à l'international, donc certains pays où les victimes commencent par se plaindre, en parler beaucoup, on essaye de faire pression sur des pays où on retrouve ces réseaux d'escrocs, donc en Afrique. Et cette situation pousse en fait les autorités politiques dans ces pays à agir. Ça passe par beaucoup de répression, ça passe par des vagues d'arrestations de temps à autre. Mais il faut dire que ces vagues d'arrestations, ces vagues de répression ne résolvent absolument pas le problème. Ce qu'on a même pu observer, c'est qu'aujourd'hui, des gens qui ont été arrêtés et dans des prisons, par exemple au Bénin, aujourd'hui continuent de mener leurs opérations dans des prisons civiles depuis le Bénin, ce qui est un comble, en fait, quand on voit aujourd'hui l'ampleur des dégâts que ces cybercriminels, ces arnaqueurs sont en mesure de créer aujourd'hui aussi bien en Afrique que sur d'autres continents.
Merci Kemal Afagnon. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr. Et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. C'est l'une des conséquences du changement climatique au Maroc. La sécheresse dure depuis près de 7 ans. L'an dernier, elle a été accompagnée de pics de chaleur. Entre autres conséquences, très peu d'olives dans les champs et des prix qui ont grimpé en flèche pour les Marocains ces derniers mois, Justine Fontaine.
Oui, ils ont presque doublé depuis 2 ans pour atteindre 80 à 110 dirhams aujourd'hui, soit 8 à 10 euros le litre environ. En cause, une récolte particulièrement mauvaise cette saison, moitié moins importante qu'une année normale. La cueillette qui a commencé en octobre se poursuit jusqu'à la fin du mois et le Maroc pourrait ainsi voir chuter sa production d'huile d'olive à 80 000 tonnes, estime l'interprofession marocaine de l'olive. Des niveaux très bas, pointe son président Rachid Ben Ali. Et cela, c'est une conséquence directe de la sécheresse qui touche le Maroc depuis près de 7 ans et qui a été combinée l'an dernier à des pics de chaleur très importants, y compris hors saison, en pleine période de floraison de la variété la plus répandue dans le pays, la picholine marocaine. Certains oliviers n'ont donc pas du tout fleuri ou bien leurs fruits ont séché sur l'arbre avant d'arriver à maturité. Du jamais vu, s'alarme Rachid Ben Ali. Alors, pour freiner la hausse des prix et répondre à la consommation nationale, le gouvernement marocain a mis en place des quotas d'importation, jusqu'à 20 000 tonnes d'huile pour 2025. De quoi permettre de stabiliser les prix, estime l'interprofession. Pour une éventuelle baisse, en revanche, il faudra attendre au mieux la prochaine récolte. Toutefois, la production faible au Maroc ne devrait pas perturber le marché mondial de l'huile d'olive, car après 2 années de crise liée là aussi à la sécheresse, la production à l'échelle de la planète est attendue en hausse de 30% cette saison pour revenir à des volumes conformes à la moyenne. C'est grâce à une meilleure récolte en Espagne notamment, premier producteur et exportateur mondial. Hors du Maroc, donc, les prix de l'huile d'olive devraient baisser pour les consommateurs cette année. L'huile en vrac pourrait être achetée aux producteurs autour de 4 euros le kilo en moyenne, contre 8 euros encore en septembre dernier, estime Abdelatif Guedira, ancien président du Conseil oléicole international.
Merci Justine Fontaine. Fin de cette demi-heure africaine réalisée, préparée avec Laurent Chaffard, Mickaël Goncalves et Cécile Périard. Merci à eux. Et merci à vous de nous avoir suivis.
À lundi, Nicolas Sûr. Vous restez avec nous sur RFI. On se retrouve dans une minute, un tout petit peu plus, pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Et puis, vous le savez, si vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous pouvez écouter une demi-heure d'informations en full day ou bien en portugais si vous vous trouvez en Afrique lusophone.
Vous souhaitez...
souhaitez réécouter ce journal, rendez-vous sur Internet www.rfi.fr.
Le goût du monde, Clémence de Navy.
Pendant des millions d'années, les hommes ont dû, pour survivre, chasser et cueillir ce qui, selon les saisons, pouvait se faire le ventre vide. Nos assiettes mondialisées, nos modes de vie nous rendraient malades. L'évolution nous aurait-elle dessinés pour jeûner? Et si le jeûne avait des effets bénéfiques sur notre santé? Le jeûne, ce dimanche, à 11h30 en temps universel.
Le goût du monde, avec Clémence de Navy sur RFI et aussi en podcast sur RFI.fr. RFI. La sélection du mois.
D'Elgrèce. Sama Racine.
RFI Musique.